الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous avons parlé la dernière fois du plus grand bienfait qu'Allah تبارك وتعالى nous a donné, qui est le bienfait de l'islam et comment on peut être reconnaissant envers ce bienfait, ainsi que le but de notre existence. L'islam, c'est une religion universelle. C'est une religion qui est venue en tant que miséricorde pour guider tous les peuples, quelle que soit leur culture, leurs origines ethniques, leurs coutumes et leurs contrées. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour le monde. Allah ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'a envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Donc il n'a pas été envoyé pour un peuple spécifiquement. C'est-à-dire, il n'a pas été envoyé pour les Arabes spécifiquement, même s'il a été envoyé chez les Arabes, mais son message, lui, est universel. Pour tous les hommes, pour tous les lieux, pour toutes les cultures, pour toutes les origines, pour tous les temps, jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi l'islam respecte les coutumes et les traditions des peuples et n'impose pas aux convertis musulmans de les abandonner, sauf si elles contredisent un point de la loi islamique. Et dans ce cas, tout usage qui va à l'encontre de l'islam doit être changé pour un autre qui n'entre pas en contradiction avec lui, car Allah tabaraka wa ta'ala ordonne une chose ou interdit une autre, et il est le savant subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui connaît ce qui est bénéfique pour l'homme, subhanahu wa ta'ala. De plus, notre foi implique de nous conformer à sa loi. Donc, certains croient que quand on entre en islam, il y a certaines habitudes ou coutumes qu'on a, on est obligé de les abandonner, même si elles ne sont pas contradictoires avec l'islam. L'islam ne t'a pas obligé d'être un arabe. L'islam t'a demandé de te soumettre à la religion d'Allah. Bien qu'il y a une vertu dans le fait d'apprendre l'arabe et de connaître la culture arabe, surtout ancienne. Pourquoi ? Pour mieux comprendre les textes. Dans ce sens-là, oui. Dans le sens pour comprendre les textes et savoir comment les pratiquer. Mais ça, c'est spécifique surtout aux étudiants en sciences et aux savants, aux érudits de chaque peuple, de chaque contrée, de s'imprégner de la langue arabe, de la culture arabe, pour comprendre les textes. Car le Coran a été révélé en arabe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un arabe. Il a été envoyé chez les arabes, même s'il a été envoyé pour le monde entier. Donc, beaucoup croient que se convertir veut dire entrer dans l'arabisme. Donc, ils prennent les bons et les mauvais côtés des cultures arabes. Comme ils ont cru cela, donc ils viennent, ils veulent devenir comme un Saoudien, ou comme un Émirati, ou comme un Marocain, ou comme un Algérien, ou comme un... peu importe le peuple arabe qu'ils côtoient. Alors il prend les bons et les mauvais côtés aussi de ce peuple arabe, qui eux-mêmes se sont éloignés de beaucoup d'enseignements de l'islam et ont pratiqué des coutumes, ont mis en place des coutumes qui sont contradictoires aux enseignements de l'islam. Donc ce point-là, il est très important à souligner. Puis il dit, il convient aussi d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'est pas demandé aux nouveaux convertis d'imiter ou d'observer les usages qui n'ont aucun lien direct avec l'islam et sa législation, tels qu'ils sont pratiqués par certains musulmans, car ce ne sont que de simples habitudes au comportement humain légalement toléré. Certains pays, ils aiment bien manger certains mets, d'autres pays, ils préfèrent manger d'autres mets, ça, c'est pas lié à l'islam. Certains pays, ils aiment s'habiller et s'habiller d'une couleur, d'autres pays, ils aiment pas s'habiller de cette couleur. Tant que c'est pas une couleur spécifique aux mouchriquim, aux foussak, aux idolâtres ou aux pervers qui s'habillent que de cette couleur, de cette manière-là, par exemple. La personne, elle est libre de mettre la couleur qu'il veut. La couleur qu'il veut. Il y a des pays, c'est mal vu qu'un homme, il s'habille pas en blanc et une femme, elle s'habille pas en noir. D'autres pays, non, c'est mal vu qu'elle s'habille en noir. Et tout le monde là-bas, par exemple dans les pays du Maghreb, quand à l'époque, il n'y a pas si longtemps que cela, toutes les femmes étaient habillées en blanc. Elles avaient, comme ils appellent, l'haïk. Elles étaient habillées toutes en blanc. Donc, dans ces contrées-là, pour une femme s'habiller en noir, c'était mal vu, c'est contradictoire aux usages. Vous comprenez? De même, donc, tout ce qui concerne les couleurs, les formes des vêtements, tant qu'ils respectent les règles de l'islam, et que ce ne sont pas des vêtements, on va les voir plus tard dans les règles des vêtements, des vêtements spécifiques, qui sont spécifiques à certaines religions ou aux mécréants, qui sont spécifiques à certains groupes pervers. Et il est préférable d'avoir un vêtement que les musulmans du pays dans lequel on est le portent, avec lequel ils se différencient des autres, sauf si il y a un méfait en cela. Si dans le fait de se différencier des non-musulmans dans un vêtement commun à tout le monde, qui n'est pas spécifique aux koufars, le fait de le porter, ça peut nuire aux musulmans, là, il est permis de faire porter un vêtement commun. Un vêtement commun, tant qu'il respecte les règles de l'islam. Par exemple, le qamis, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation religieuse. Certains croient qu'on est obligé de porter le qamis. Non. L'obligation, c'est d'avoir un vêtement qui cache les formes et qui n'est pas spécifique à certains pervers ou certains groupes égarés ou peu importe. C'est-à-dire qu'il n'est pas spécifique d'un groupe qui est blâmé en islam. C'est ça, là. C'est commun à tout le monde. Le kafir le porte, le musulman le porte, le pieux le porte, le pervers le porte, tout le monde le porte. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à porter ce vêtement-là. On va voir plus tard dans les règles du vêtement, tant qu'il respecte ces règles-là. Tant qu'il respecte ces règles-là. Après, il est clair que un imam, un représentant religieux, un étudiant en sciences, il se doit de porter le meilleur vêtement. Un vêtement qui le différencie, qui met un vêtement qui est lié à l'islam. Les prêtres, ça ne les dérange pas de mettre leur soutane, n'est-ce pas? Les rabbins, les je ne sais quoi, ils sont... Alors un étudiant en sciences aussi, il se doit de se présenter sous la meilleure forme et de porter les vêtements des musulmans. Même autre que même les musulmans du commun, qui dans leur vie du commun, quand ils ne sont pas amenés à travailler ou à être en... à des moments où ils ne peuvent pas porter par exemple la gandora ou la kamis, ils peuvent le mettre quand ils sont dans la vie tous les jours ou quand ils vont faire leur cours. S'ils ne craignent pas pour eux un mal, s'ils craignent pour eux un mal, il y a certains pays où les musulmans ne peuvent pas se balader comme ça. C'est pas juste des paroles qu'ils subissent, c'est des attaques physiques, c'est des... Il y a des pays comme dans les pays de l'ex-URSS, c'est très très compliqué d'avoir une apparence islamique. Hein. C'est pas juste des paroles, il y en a ils vont en prison, il y en a ils se font torturer, il y en a ils se font comme les Chinois, les Ouïghours, par exemple. Dans ce cas-là, la personne ne va pas les provoquer. Oui, je vais absolument le turban et le kamis pour après se mettre en danger. Dans ce cas, il porte le vêtement que tout le monde porte, tant que ce n'est pas un vêtement spécifique, comme on a dit, à un groupe donné. Ça, c'est vrai pour le vêtement, et c'est vrai pour toute autre chose liée aux coutumes. Mais ça ne veut pas dire quand on dit lié aux coutumes, il n'y a aucune règle dedans. C'est pas tout ce qui est lié aux habitudes, il n'y a pas des règles dedans. Il y a des règles à respecter. Mais ces règles, c'est, une fois qu'elles sont respectées, dans le reste, il y a largesse. Dans le reste, il y a largesse. Non. Après, il y a d'autres points à prendre en compte. Quand on est dans une société où l'effort, il est fait sur les musulmans pour qu'ils perdent leur identité. Là, il est bon de faire le contraire, de résister, de montrer son identité. Comprenez? Tant qu'on n'a pas un danger, on peut supporter le mal, qu'ils sont juste des paroles ou quelques pressions qui vont pas très loin, hein, et que c'est, il n'y a pas un danger ou un méfait en cela. Donc, tout cela revient à l'intérêt et au méfait. Mais sinon, à la base, il y a largesse en cela, il n'y a pas une prescription précise. La base, c'est de porter le vêtement que les musulmans de notre pays portent. C'est ça la base. C'est ça la base. On est dans un, par exemple, quelqu'un est au Maghreb. Il met un vêtement pakistanais ou afghan. Est-ce que vous pensez que ça passe? Non. Là-bas, il va mettre la gandora marocaine. Hein? Il va en Algérie, ils ont l'espèce de kamis à manches courtes, là, ouverte, machallah. Ça passe bien. En Tunisie, tu mets l'habit traditionnel tunisien, ça passe. Mais tu mets un kamis qui, eux, ils considèrent saoudien, ça passe pas. Donc, pourquoi tu te fatigues? Mais le kamis tunisien, en plus, il est, mashallah, il est nisfsak, il est mi-jambe, il est court, il est bien. Pourquoi tu vas te fatiguer à mettre autre chose alors qu'il respecte la sunna et qu'il va dans le sens de la culture et des gens qui vivent autour de toi? C'est ça l'objectif du message qu'on veut passer là. Barakallahu fik. Ici, l'écrivain a mis un titre qui est vrai, mais qui demande précision, et je vais expliquer, Inch'Allah. Il a dit, toute la terre est un lieu valable pour s'acquitter de l'adoration d'Allah. Il dit, l'islam considère toute la terre comme un endroit qui convient à la vie et à l'adoration d'Allah. Je lis d'abord, après je fais mon commentaire. Il n'y a pas donc un pays ou un endroit précis vers lequel les musulmans sont obligés d'émigrer. Ça c'est vrai, on va préciser. Il n'y a pas un pays où les musulmans sont obligés d'émigrer pour y vivre leur religion. Ce qu'il faut prendre en considération concernant cette question, c'est la possibilité ou l'impossibilité d'adorer Allah dans le lieu considéré et d'extérioriser sa foi en ayant la capacité de dénoncer les mauvaises croyances qui existent autour de nous. Cette question, c'est la question de la hijra. À quel moment la hijra est obligatoire? L'égir, l'exil. Est-ce qu'elle est obligatoire? Quoi qu'il arrive, il est obligatoire aux musulmans d'exiler vers les pays musulmans. Quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'elle est obligatoire quand il n'a pas la possibilité d'extérioriser sa religion? Ceci est un sujet à divergence entre les savants de l'islam. Certains considèrent que quoi qu'il arrive, l'égir est une obligation d'un pays de mécréance vers les pays de l'islam. Un pays de l'islam, cela ne veut pas dire qu'il est parfait, qu'il pratique l'islam selon sa perfection. Non. Si les rites de l'islam y sont apparents et que la majorité de ses habitants sont musulmans, c'est un pays musulman. Si les rites de l'islam y sont apparents, c'est quoi les rites de l'islam? L'adhan, la prière de l'Eid, le jeûne du Ramadan, toutes les obligations apparentes, les rites apparents de l'islam, tout ce qui est apparent, qui ne se fait pas en cachette, le hijab, la barbe, l'adhan, la salat, etc. Tout ça c'est apparent et la majorité de ses habitants sont musulmans, on considère cette contrée comme une terre d'islam. Et on ne regarde pas, comme certains disent, c'est un avis qui existe, qui disent on regarde le dirigeant du pays. Si le dirigeant est musulman et le juge selon les lois de l'islam, c'est un pays musulman. Sinon, c'est un pays mécréant. Si on dit cela, on dit que pendant la colonisation, tous nos pays étaient des pays mécréants. Qui dirigeait les pays musulmans pendant la colonisation? Les non-musulmans, les koufars, n'est-ce pas? Ça restait des pays musulmans, sauf qu'ils étaient occupés. Ils étaient occupés par des non-musulmans, par des koufars, par des mécréants, n'est-ce pas? Donc, le plus juste, c'est de dire que tant qu'il y a les rites apparents dans un pays, les rites de l'islam apparents, et que la majorité de ses habitants sont musulmans, c'est un pays musulman. Le reste sont des pays mécréants. Les pays mécréants sont divisés en deux catégories. Ceux avec qui on a un pacte, on n'est pas en guerre. Quand on dit « on », c'est-à-dire les pays musulmans, c'est pas toi, moi... un groupe de gens, ils ont dit, allez, on est en guerre contre le pays. Ça n'existe pas, ça. Barakallahu fik. Hein? C'est-à-dire, les pays musulmans, le pays musulman n'est pas en guerre contre un État mécréant. Ils ont des pactes de paix. Ils ont des accords. Et il y a le pays mécréant avec lequel on est en guerre. On est en guerre. Alors, le statut change ici aussi. C'est bien de comprendre tout cela pour comprendre le statut de la hijra. En résumé, on revient sur le statut de la hijra. Il y a deux avis sur cette question. Tout le monde dit que la hijra reste valable jusqu'à la fin des temps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. De toute façon, on ne peut pas dire le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la hijra perdurera. Et cette hijra, maintenant, elle perdure. C'est vrai. Mais est-ce qu'elle est d'un caractère obligatoire ou d'un caractère surérogatoire? C'est là que la divergence intervient entre les savants. On va parler d'abord des points sur lesquels il y a unanimité. Comme ça, ça va être clair. Première unanimité, la hijra reste valable tant que la tauba reste valable et la tauba reste valable tant que le soleil ne se lève pas de son coucher. Voilà le hadith. La hijra, c'est-à-dire l'exil, le fait de partir d'un pays mécréant vers un pays musulman, elle est légale, légiférée. Donc c'est un acte qu'Allah aime. C'est une adoration qu'Allah aime. Selon l'unanimité des savants. C'est une très grande adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La hijra efface
une personne est venue le voir et dit, oh messager d'Allah, j'ai fait tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Il lui a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui est auparavant et qu'un pèlerinage pur de tout péché efface ce qui est auparavant et que la hijra efface tout ce qui est auparavant. La hijra, elle est comme un pèlerinage pur de tout péché et comme quelqu'un qui entre en islam. C'est une très grande adoration. Cette adoration-là, donc ça c'est le premier point sur lequel il y a unanimité. Le deuxième point sur lequel il y a unanimité, c'est que si la personne n'est pas capable d'extérioriser sa religion, la hijra est obligatoire. D'accord ? Donc, ça, il y a unanimité entre les savants sur l'obligation de la hijra quand on est incapable d'extérioriser sa religion. Le troisième point, le point de désaccord. Quand on est capable d'extérioriser sa religion, est-ce qu'on est dans l'obligation de faire la hijra ou non ? Alors, un groupe dit oui, et un groupe dit non, ça reste recommandé et non pas obligatoire. D'accord ? Extérioriser sa religion, ça veut dire quoi ? Comme l'ont précisé les savants, extérioriser sa religion, c'est de pouvoir dire à un kafir, tu es kafir. Tu peux dire à un mécréant, tu es mécréant. Tu vas aller au feu si tu meurs comme ça. Si tu peux dire ça et rester dans ton pays, t'extériorises ta religion. Si tu ne peux plus dire ça pour rester dans ce pays, tu ne peux pas extérioriser ta religion. Et non pas comme les gens croient, juste je prie. Ça, c'est pas extérioriser. Extérioriser, c'est dire en plein jour que l'islam, c'est la vérité et les autres religions, c'est le faux. Si on n'est pas capable, bien sûr, on va pas aller les insulter. On va pas aller les provoquer. Attention. Hein? Mais pouvoir dire le chemin de la sauvée, c'est l'islam. Et les autres chemins mènent en enfer. Tout simplement. Tous ceux qui ne croient pas en l'islam sont chez Allah des koufars, des mécréants. Et s'ils meurent dans cet état, ils vont en enfer éternel. Et ça, cela a été expliqué par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont combattu à la mer? Pourquoi? Pourquoi ils ont châtié les musulmans? C'est pas juste parce qu'ils pratiquaient. C'est parce qu'ils insultaient leur statut. Parce qu'ils disaient que leur religion elle est fausse. Parce qu'ils disaient que l'islam c'est vrai, parce qu'ils interdisaient l'adoration d'autres qu'Allah. C'est ça qui leur a valu les persécutions et les attaques et les tueries. Sinon, qui pratique dans son coin, personne ne lui aurait rien dit. Voilà pourquoi elle a été persécutée. Ils lui ont dit, quand ils lui ont proposé, les Quraysh, ils lui ont proposé quoi? Ils lui ont pas dit laisse ta religion. Ils lui ont dit, arrête de prêcher. Juste arrête de prêcher, garde ta religion, mais arrête de prêcher. On te donne tout, on te fait roi de la Mecque, on te donne les clés de la Mecque, on te marie les meilleures femmes, on te donne toutes les richesses. Juste arrête de prêcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Vous connaissez tous cette histoire. Si vous me mettiez le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne laisserai pas cette affaire tant qu'Allah ne l'accomplit pas ou que je meurs pour sa cause. Donc, voilà que veut dire extérioriser sa religion. Ça ne veut pas dire aller les provoquer, aller les... bien sûr. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana. Allah Ta'ala, il a dit, appelle au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Wajadilhum billati hiya ahsan. Et débat avec eux de la meilleure des manières. Donc, il y a un art. Hein, il y a une manière de dire les choses. Mais c'est pas, cette manière ne doit pas t'empêcher de dire la vérité. Est-ce que c'est clair? Donc, on va revenir au dernier point. À la base, ce que dit ici l'écrivain, c'est pas faux. Dans un sens absolu. Dans le sens où il n'y a pas une terre qui est plus aimée qu'une terre pour adorer Allah, sauf les terres sacrées, hein, où il y a une valeur supérieure pour l'adoration, comme Mecca, Al-Madina et le Masjid Al-Aqsa. Mais à part ça, aucun musulman n'a l'obligation de se diriger vers un endroit précis pour y vivre. Il vit où il veut. Tant qu'il respecte ses règles. C'est ça, en fait, le message qu'il veut passer. Tant qu'il respecte ses règles, tant qu'il préserve sa religion, tant que sa religion n'est pas en danger, tant qu'il peut extérioriser sa religion. Et le jour où il ne peut plus extérioriser sa religion, là, il est dans l'obligation d'émigrer vers une terre d'islam. Et même quand il choisit une terre d'islam, il y a terre d'islam et terre d'islam. Tout ça, c'est des terres d'islam. Mais il y a des terres d'islam où la pratique elle est plus facile, et d'autres terres d'islam où la pratique elle est moins facile, n'est-ce pas? Et après, si on l'empêche d'aller dans toutes les terres d'islam, il va dans une autre terre de mécréance moins dangereuse. Moins dangereuse. Comme c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ils ont été où? En Abyssinie. Il n'y avait pas de terre d'islam. Donc ils ont été où? En Abyssinie, chez un roi chrétien qui n'opprimait personne, qui les laissait libres de leur pratique. N'est-ce pas? Donc pareil, un musulman qui veut faire la hijra, aucun pays musulman ne l'accepte. Il n'accepte pas. Il n'arrive pas à y vivre. Alors il cherchera en attendant un pays non musulman qui est plus ouvert avec les musulmans, qui leur laisse la possibilité d'extérioriser leur religion. Vous avez compris? Donc, la terre d'Allah est vaste. En résumé, la terre d'Allah est vaste. La personne qui n'arrive pas à pratiquer un endroit, il peut pratiquer mieux dans un autre endroit. Et quoi qu'il en soit, s'il fait la hijra vers une terre d'islam, cela reste une grande adoration et c'est la meilleure chose, c'est une des meilleures adorations qu'il puisse faire et c'est une cause de faire pardonner ses péchés. Passé. Puis, il faut penser loin. Supporter des difficultés en terre d'islam, même la pauvreté ou certaines oppressions du fait que les gens sont mal éduqués ou mal organisés ou peu importe, c'est mieux pour toi et tes enfants et ta descendance que d'être à l'aise et bien manger et reposer dans une terre de couvre où leur foi elle est en danger. Et où ta foi à toi elle est en danger et ta religion elle est en danger. Donc, il a dit quoi ici? Le musulman n'est pas tenu de s'exiler vers un autre lieu sauf si on l'empêche d'adorer Allah ou d'extérioriser sa religion. Et auquel cas, il changera pour un lieu où il pourra pratiquer le culte conformément à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens « Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est suffisamment vaste, alors adorez-moi exclusivement. »